Salut.
C'est Radio Radieuse.
C'est Radio Radieuse.
Et tu écoutes Radio Fréquence Paris Pluriel. Cette fois-ci, nous avons co-écouté une émission appelée
Pour lutter,
vivons perchés.
Quoi? Pour lutter, vivons perchés.
Dans cette émission, qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois, nous parlons d'écologie sous plein de formes différentes. Documentaire sonore,
rencontres,
musique,
débat en direct
et autres joies du son. Nous gravitons dans le milieu écologiste et on s'intéresse à plein de sujets.
Plein de sujets.
Qui ont comme base commune la lutte contre les dominations
contre
sur les corps, la terre,
les esprits.
Pendant cette émission, nous souhaitons particulièrement parler des luttes anti-nucléaires, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui disparaît derrière le mouvement écolo actuel qui oublie peut-être un peu trop d'où il vient. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la voix des pro-nucléaires domine l'espace médiatique et politique en France. Que ce soit via les canaux de communication, d'EDF,
de Rano
ou de Landra, ceux de certains scientifiques à la mode parce qu'engagés dans l'écologie, ou sur les chaînes de youtubeurs connus. L'énergie nucléaire est défendue comme étant une énergie écologique, dont la production rejette peu d'émissions de gaz à effet de serre, et donc comme une énergie d'avenir.
Une énergie d'avenir.
D'avenir ? Face à eux, les mobilisations anti-nucléaires ont du mal à se faire entendre.
Alors même que l'année 2020 s'avère cruciale pour le développement ou non du nucléaire en France.
Présentation de nouveaux projets d'EPR, décision quant à la demande d'utilité publique de Landra pour étendre ses achats de terrain à Bure.
Bref, il devient urgent de faire entendre celles et ceux qui s'opposent à l'expansion de cette filière.
Parce que le nucléaire perpétue le colonialisme,
que le nucléaire est socialement néfaste,
que le nucléaire est lié à l'industrie militaire,
que le nucléaire est corrompu,
que le nucléaire est antidémocratique,
que le nucléaire criminalise ses opposantes,
que le nucléaire nuit aux vivants,
que le nucléaire est une menace permanente d'accidents et de fuites,
que le nucléaire présente des risques accrus dans un contexte d'instabilité sociétale,
que le nucléaire empêche une politique de sobriété et d'efficacité énergétique,
que le nucléaire ne résistera pas au changement climatique,
et que le nucléaire empêche d'investir dans la transition énergétique en France.
Nous souhaitons faire entendre au monde entier les enjeux actuels du nucléaire.
Faire entendre des voix de personnes qui ont lutté, ou luttent encore, contre le nucléaire et contre les aberrations qu'il engendre.
Cette émission, un petit micro aux écoutilles frétillantes et férues de mémoire militante s'est laissé cette fois-ci happer par une histoire tout à fait atypique. Une histoire de vie, l'histoire d'un corps épris de liberté, les pieds et mains amarrés aux montagnes plutôt qu'à la basse terre. L'histoire d'une révolte qui apprend à prendre de la place hors de soi, à être visible et retors face aux autorités policières et juridiques. C'est l'histoire d'une révoltée, activiste à plein temps, qui rit comme elle mord. L'histoire d'une lutte contre l'absurdité et la criminalité d'un monde qui dévore ses montagnes et asphyxie le vivant. En écoutant celle qu'on appelle écureuil, on se sent à la croisée entre des problématiques si variées que les faire cheminer ensemble paraît être un véritable casse-tête, un patchwork difficilement saisissable. Cela va d'une passion pour l'escalade à un parasitage chronique du système de transport énergétique en Allemagne, en passant par une maladie articulaire dégénérative avec laquelle il faut faire avec. L'air sûr d'elle, écureuil tisse le fil d'un parcours cohérent et pleinement choisi, avec une lucidité joyeuse, quoique souvent cynique, à laquelle se mêle une force de conviction qui ne doit pas être prise à la légère. Les installations nucléaires étant disséminées sur tout le territoire, l'industrie de l'uranium génère chaque jour des transports à haut risque. De l'extraction du minerai jusqu'aux installations de stockage, en passant par les phases de conditionnement, l'uranium suit un dangereux périple dont le plus grand secret. Chaque année, pour les besoins de l'industrie nucléaire, la France est traversée par 19 000 transports radioactifs, trains, camions et bateaux, soit 114 000 colis. Ces convois quotidiens tissent une toile qui n'épargne aucune région française. L'uranium va ainsi être transporté 6 fois et transformé 5 fois avant même son utilisation dans les réacteurs. Et c'est sans compter les transports des déchets de toutes sortes produits à chaque étape de la chaîne nucléaire. Ces convois sont plus ou moins radioactifs. Lors de ces va-et-vient, ni la sécurité de la population ni la protection de l'environnement ne sont garanties. Par exemple, les convois de combustible usé émettent des rayonnements importants malgré le blindage des conteneurs Castor. Alors qu'en Allemagne, les agents assurant la sécurité des convois ont l'interdiction de s'approcher à moins de 7 mètres des Castors, ou qu'en Belgique, les élus locaux sont informés quelques heures avant le passage des convois, aucune mesure similaire n'existe en France. Pourtant, les relevés de radioactivité sont éloquents. Lors d'un dépassement de camion, la radioactivité mesurée par la CRIRAD dans la voiture est jusqu'à 47 fois plus élevée que la normale. Officiellement, la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs s'établit selon un plan de mesures de transparence et de démocratie. En matière de transport nucléaire, ni les élus locaux ni les citoyens ne sont informés. Et pourtant, lorsqu'un train de déchets traverse une gare, les cheminots sont exposés aux radiations, tout comme les usagers.
Ok, donc en fait, ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a comme une toile d'araignée sur toute la France, avec des transports dans tous les sens, entre les divers endroits où il y a des transformations du nucléaire, toutes les installations, et jusqu'aux centrales. Et ça, personne ne le sait, il y en a dans tous les sens. Il y en a presque 20 000 par an en France.
Mmh, c'est énorme.
Et c'est plus ou moins radioactif. Il y a des cheminots qui s'en prennent tout le temps. C'est vraiment scandale.
C'est naze.
C'est trop nul.
C'est naze.
C'est trop nul.
C'est naze. C'est naze.
Viens voir.
Et qu'est-ce qu'il y a?
Regarde. Dans la nuit du 7 au 8 avril, une vingtaine d'activistes de l'association d'action pour l'environnement Robin Hood, tu sais Robin Hood là, Robin des Bois, tout ça, manifestent à la gare en Basse-Saxe dans le nord de l'Allemagne.
Non.
Et c'est pourquoi?
Mais non.
Bah contre le passage d'un train chargé d'uranium. Oh. Et l'uranium, il a une forme de yellow cake. Et ça, ça vient de Namibie.
Ok.
Ouais, c'est loin.
D'accord.
Le train
de Namibie en Afrique.
Ouais, ouais, ouais.
Okay.
Le yellow cake d'Afrique, quoi.
Ok.
Le train parti quelques heures plus tôt du port de Hambourg. Et il avait comme destination l'usine d'uranium d'Areva à Narbonne.
Non, okay.
Mais ouais, dans le sud. Il traverse toute la France, le mec.
Chouette, comme... Ok.
Super gâteau, hein. Le train, il avait été affrété avec un bateau de la compagnie hambourgeoise Max. Tu vois cette compagnie, celle qui a un passé colonial...
Ah sérieux?
Ouais, pas très glorieux.
Oh merde.
Ah.
Ok.
Alors que vers minuit, le train est stoppé. Du coup, il est stoppé à Büchels in der Nordheide.
Ouais. Du coup, stoppé par les activistes.
Ouais.
Ok.
En fait, il y a deux nanas qui descendent en rappel d'un pont.
Ouais.
Avec une dendrole où il y a écrit...
Don't nuke the climate.
Oh, stylé, quoi.
Quoi? Mais c'est incroyable.
Don't nuke the climate. Les pompiers de Hambourg, appelés par les autorités, forcément, ils les délogent, ils mettent 3 heures à les enlever du pont. Et là, la police, elle en profite... Elle arrive, hein, comme d'habitude. Et alors, elle arrête les deux militantes qui, bon, bah, elles vont passer plusieurs heures en garde à vue.
Oh, bon sang.
Et donc là, Cécile, elle est condamnée, sans procès, à une amende de 500 balles.
500 balles?
Ouais, pour avoir enfreint la loi. Alors, là, écoute bien, la loi garantissant le bon fonctionnement du trafic ferroviaire.
Ok.
Problème. Si cette loi, elle interdit d'entraver la circulation des trains en allant sur les rails, Cécile... Elle n'était pas sur les rails, mais au-dessus.
Comment
et
ça
ouais,
ah mais oui, elle descend en rappel.
Ouais, avec l'autre, là. Les deux. Et du coup...
En fait, c'est une acrobranchiste praticienne d'escalade.
Exactement.
Mais c'est incroyable.
Et la cerise sur le gâteau, le yellow cake. Avant son procès, Cécile réaffirme. Je sais pourquoi je m'engage. et ce n'est pas la répression qui me fera aimer le nucléaire.
Pou, pou, pou.
Bang, bang.
Alors, on va du steak.
Je vais te la présenter, tu vas voir.
Ok, vas-y.
Moi, c'est Cécile, ou bien Eichhörnchen, c'est l'écureuil en allemand. Alors, en français, on écrit avec deux L-E, parce qu'il faut quand même, hein, le genre et tout. Mais c'est parce que les Français n'arrivent pas à prononcer ce mot, mais pourquoi l'écureuil? Parce que j'aime beaucoup l'action politique et l'action directe, et entre autres, l'escalade. Parce que j'estime que dans l'action politique, il est utile d'utiliser toutes ses capacités et qu'elles sont très diverses et variées. Et quand on sait bien grimper, ça peut être utile. Mais il y a aussi d'autres rôles très importants dans l'action politique. Ce n'est pas la seule chose à faire. Mais c'est un peu ma spécialité parce que voilà, c'est une question de passion. J'aime l'escalade. Et puis j'en fais depuis que je suis toute petite. Mais j'ai fait longtemps de la compétition. On était toujours contre les autres. Et maintenant, je suis encore contre beaucoup de choses, mais pas les autres, mais plutôt l'ANDRA, par exemple, le nucléaire, le charbon, les nazis. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles, contre lesquelles on peut grimper et bloquer. Et la particularité, parce que oui, effectivement, à la radio, on ne le voit pas, c'est que j'ai une chaise roulante dont j'ai besoin parce que j'ai une maladie qui attaque les articulations, qui fait très mal. Mais c'est pas parce qu'on est en chaise roulante qu'on ne peut pas grimper. C'est même presque plus facile que de marcher pour moi, puisque quand on est dans les arbres, on n'a pas trop de poids sur les articulations. Donc beaucoup de gens pensent que les personnes handicapées ne sont pas capables de rien. Moi, j'ai dit que c'est, on fait les choses différemment, on fait d'autres choses, pas forcément les mêmes, mais en étant un peu créatif, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Bon, les premières actions, j'ai dû grimper sur des poteaux pour mettre une banderole sur une manif. Je me souviens de quand j'étais petite, enfin petite, pour moi c'est il y a... en 97. C'était mes premières manifs antifascistes quand j'étais lycéenne. Et je grimpais sur les poteaux pour pouvoir faire des photos d'en haut et mettre des banderoles. Mais c'était juste un drapeau, c'était vraiment pas organisé. C'est parce que j'étais au club alpin et je savais grimper. Et les vraiment actions organisées, j'ai commencé au début des années 2000, quand j'ai rencontré d'autres activistes grimpeurs qui, eux, ne connaissaient pas les montagnes. Je me suis rapidement adaptée à leur technique d'escalade pour l'action. Et l'avantage d'un montagnard, c'est qu'on a un peu plus d'expérience et qu'on est un peu plus créatif, parce qu'on connaît mieux le milieu de l'escalade. On est plus habitué à des situations imprévues, parce qu'en montagne, si t'as une chute de pierre qui te coupe ta corde en deux, on s'en fiche un peu de ce qui a marqué dans le topo qui te dit que t'as une corde de 50 mètres. Si ta corde elle fait plus que 40 mètres, on va te débrouiller comme ça quand même, quoi. Et en action, le fait d'être flexible et d'être créatif, ça aide beaucoup. Et donc j'ai commencé dans le début des années 2000 avec d'autres activistes en Allemagne qui étaient déjà un peu organisés dans l'association Robin Wood, par exemple. Et je me suis rendu compte que c'était très efficace, par exemple, pour bloquer des trains nucléaires. Ou bien... faire dévier toute une manifestation de néo-nazis parce que la police a peur que tu leur balances quelque chose sur la figure s'ils passent en dessous de toi. Voilà, je me suis rendu compte que c'était très efficace comme mode d'action en fait. C'est pas sans danger, mais c'est très efficace. Tu as aussi bien des actions, on va dire, coup de poing rapides, qui sont blocages. Par exemple, tu veux bloquer un transport nucléaire, ben, je sais pas, tu descends en rappel d'un pont, tu tords une corde entre deux arbres. Et après, il faut faire attention, naturellement, à toutes les règles de sécurité. C'est comme toute autre action, hein. C'est pas si simple que ce que je raconte comme ça. Ça demande tout un travail. Mais si on respecte les règles de sécurité, c'est tout à fait possible de bloquer les transports de cette façon-là. J'ai dû le faire au moins une vingtaine de fois, j'ai pas compté. Tu as des actions purement, on va dire, placatives, on dit en allemand. Ça veut dire juste afficher une banderole pour faire passer un message sur une manif, par exemple. Genre, toute la manif passe sous ta banderole. On l'a fait souvent, par exemple, sur les manifs pour les réfugiés. On avait marqué « Bleibe recht alle », que tous les pour que tout le monde ait le droit de rester contre les frontières. Les gens, ils sont contents d'avoir une banderole qui soutient la manif, et puis ça donne des images pour la presse, pour faire passer le message. C'est cool les occupations d'arbres, moi j'aime bien ça. C'est fatigant des fois, mais par exemple l'occupation qu'on a eue à Hambourg, c'était la première fois de ma vie où j'occupais des arbres pendant 3 mois et qu'à la fin on avait gagné et qu'il fallait défaire nos plateformes nous-mêmes. Et mince, comment on fait pour faire ça soi-même? J'ai oublié, d'habitude c'est la police qui s'en charge. Bon, il avait fait moins 18 degrés, il y avait eu de la neige tout l'hiver, c'était chaud, dans le sens froid. Mais c'était une occupation d'arbres contre une centrale à charbon et la ligne, enfin le tracé de canalisation d'eau chaude, parce qu'en fait une centrale à charbon, elle n'est pas rentable si tu évacues pas l'eau chaude quelque part. Donc c'était soi-disant écolo, parce que le chauffage à l'eau chaude ça pourrait être écolo, mais bon c'était quand même fait pour faire marcher une centrale à charbon. Et pour nous à l'époque c'était l'occasion de protester en ville. Parce que ces canalisations auraient dû passer à travers les parcs de Hambourg. On aurait pu les faire passer aussi à travers les routes, mais bon, l'automobile, c'est sacré. Donc, on voulait détruire les parcs, et donc les arbres. Et donc, nous, on a occupé les arbres pendant 3 mois, et on a fini par gagner. Et c'est un truc de fainéant, les occupations d'arbres, quand même, un peu, hein. Enfin, c'est fatigant, mais tu vois, surtout en ville, c'est sympathique, tu entres beaucoup en contact avec la population, tu mets un petit mot en bas de ton arbre, et tu dis qu'est-ce que tu as besoin pour nous soutenir, parce que les gens ils veulent nous soutenir, ça permet de faire participer les gens. Une copine, elle n'avait pas de chaussures d'hiver, elle avait marqué chaussures d'hiver taille 43, 3 jours plus tard, elle avait des chaussures. Moi, j'ai croisé des Français, j'aurais dit « Oh, j'ai envie de crêpes !» 3 jours plus tard, ils m'ont amené des crêpes. Ou comme ça, ou alors on leur expliquait ce que c'était que la nourriture végane, parce que la population locale, c'est dur, ils savent pas toujours ce que c'est. Ou alors c'était en plus des quartiers défavorisés, donc on a rapidement traduit notre acte en turc. Pour pouvoir discuter avec la population. Après, c'était le chemin d'école de tous les enfants. Donc, ils ont parlé à l'école. Du coup, les profs sont venus avec leur classe. On avait vraiment un téléphone. On était tout le temps occupés. Bon, à 13h, on prend tel groupe. À 14h, on prend tel groupe. On a vraiment fait beaucoup, beaucoup de travail.
Depuis le haut de l'arbre.
Ouais, et puis en bas aussi. On avait construit un igloo pour ceux qui soutiennent en bas. Parce qu'une action, c'est jamais que des grimpeurs. Même si tu ne sais pas grimper, tu peux soutenir une action. C'est très important, hein. C'est un peu comme une chaîne de résistance, tu as tous les rôles qui sont importants, aussi bien ceux qui grimpent que ceux que, tu vois, moi quand je suis dans mon arbre, je descends un sac en tissu et puis dedans on me met à manger par exemple. Ben, je suis bien contente, on avait, on va dire des grand-mères, parce que c'était des femmes d'un certain âge, qui s'étaient mises, parce qu'elles étaient déjà à la retraite, elles avaient le temps, elles avaient fait un planning, et pour qu'on ait au moins une fois par jour à manger chaud, une bonne soupe chaude. Et donc, elle nous amenait tous les jours la soupe chaude. C'est comme ça que marque la résistance, sa pluralité et la solidarité qu'il y a. Et j'ai beaucoup... Donc voilà, l'activisme escalade, c'est quelque chose qui peut beaucoup relier aussi bien les luttes que les personnes. Ça peut se faire sur différents sujets. Et quand tu occupes quelque chose, eh ben, ça a aussi un point... soit ça fait un point d'information quelque part, où les gens, ils y vont, c'est un point de convergence. Les gens viennent s'informer, ou les gens viennent regarder, viennent apprendre à grimper des fois. Tout dépend des situations. Il y a toujours des situations sur des occupations de longue durée calmes. On a le temps de discuter. Après, il y a des situations des fois où on se fait éjecter par la police. Oui. De MOX, donc c'est du combustible qui contient beaucoup de plutonium. Enfin beaucoup, qui contient du plutonium par rapport au combustible, donc c'est un combustible plus dangereux. Il est aussi utilisé dans des centrales nucléaires allemandes, et on avait une livraison par exemple qui venait de Sellafield, donc c'est l'équivalent de l'usine de la Hague en Angleterre. C'est arrivé par le port de Nordenham, et par camion. Et puis on l'a bloqué avec un tripode. Alors bon, j'avais un peu une policière qui me collait aux fesses parce qu'ils savent que je grimpe, donc c'était un peu difficile de faire sans elle, mais on a réussi à se planquer dans la forêt, à trouver des bouts de bois et à faire un tripode avec ça, parce que la veille, le matin même, on nous avait récupéré d'un fourré où on s'était planqué la nuit et ça avait foiré, on s'était fait découvrir, on nous avait piqué tout le matériel d'escalade, on a dit c'est pas grave, on construit autre chose. On a pris de la ficelle d'une banderole, c'était pas très solide, mais bon, quand on la met, quand on utilise 10 mètres, ça devrait aller. On a réussi à construire un tripode avec ça. Donc un tripode, c'est un trépied en bois. Et puis on l'a posé sur la route. J'ai grimpé dessus. Alors, la policière qui a essayé de m'attraper les pieds, mais c'était trop tard. Et puis, tout d'un coup, il y avait un lit d'enfant qui s'est pointé, un lit à roulettes. Puis tout d'un coup, il y avait des gens enchaînés à ce lit avec un cadenas autour du cou. Donc voilà, c'était un mélange d'actions entre une action de s'enchaîner et... grimper. Et du coup, la police a un peu abandonné le lieu et du coup, ils ont fait passer le transport nucléaire par des chemins de campagne normalement pas homologués pour les transports lourds. Mais bon, voilà, hein, le nucléaire a toujours des autorisations spéciales. C'est pas très grave, c'est juste un peu de radioactivité. S'il y a un accident, il se passe rien. Mais voilà, ils ont fait passer le transport par un chemin non autorisé, parce que c'était des petites routes de campagne, des chemins même, pour atteindre la centrale nucléaire. Mais voilà, ils avaient abandonné l'affaire à cause de nous. Et donc, moi je me dis toujours que si on était plus nombreux à le faire, il y aurait plus de problèmes.
Tu écoutes Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel, tous les jeudis à 20h30. Ce soir, l'émission s'appelle
« Pour lutter, vivons perchés !»
Et c'est Cécile qui te parle de son activisme contre le nucléaire et son monde.
Sinon, on a déjà fait aussi des actions, genre une fois on a bloqué un train, c'était l'export de... Non, c'était un train de déchets nucléaires vers la France, vers Pierrelatte. Parce que en Allemagne, malgré la sortie du nucléaire, l'usine d'enrichissement de l'uranium continue de produire, enrichir de l'uranium pour les barres de combustible du monde entier. La firme Urenco qui exploite cette usine a 10% du marché mondial, donc c'est quand même beaucoup. Ils peuvent nourrir plus de centrales qu'il y en a encore en Allemagne. Et le problème, c'est que dans l'enrichissement de l'uranium, il y a à peu près 10% qui est enrichi, et le reste, c'est des déchets nucléaires, faiblement, moyennement radioactifs, dont on ne sait pas quoi faire non plus, parce qu'ils sont quand même dangereux. Et du coup, ils ont été envoyés, une partie a été envoyée en France, à un moment donné, à Pierrelatte, pour reconditionnement. Ils sont censés revenir, parce que c'est des déchets, on n'a pas le droit d'exporter ces déchets. Les transports retour, on ne les a toujours pas vus, et ces transports ont eu lieu ces 10 dernières années. Ouais, faut voir. Et là, on a bloqué un transport une fois, parce qu'on avait repéré les horaires, à peu près, en faisant de l'observation. Alors, avant de bloquer un transport, tu passes des nuits à observer. On a de l'aide de la population qui habite le long des rails, etc. Heureusement qu'ils nous aident un peu à observer et à donner des informations. Tout ça, c'était un travail d'information, de faire. Les gens, ils en ont marre des transports, du coup, ils nous donnent des informations. Et puis là-bas, on avait bloqué dans les arbres. Puis au bout de quelques heures, on avait fini par être délogé de là-haut, mais enfin, ça avait duré au moins 6 heures, je crois. Je sais plus. Mais voilà, non, c'était l'inverse. Il y avait des gens qui s'étaient enchaînés au rail. Et une fois qu'ils étaient. Que la police, au bout de 2 heures, les a libérés, enfin libérés, les a enlevés avec la scie circulaire, quoi, hein, la meuleuse, ils ont dit oh, regardez, au kilomètre tant, je crois qu'il y a des gens. Et hop, nous, on était dans les arbres. Et du coup, c'était l'action suivante. Et du coup, ils ont piqué une crise, quoi, parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup de mal à nous virer des arbres. Ça a duré trop longtemps, et du coup, le train a fini par faire demi-tour. C'était symboliquement intéressant d'obliger le train à faire demi-tour. Il a fini par prendre une autre route, certes, mais quand même, ils ont eu 24 heures de retard, quoi. C'est assez efficace. On avait réussi à interrompre l'export de déchets nucléaires vers la Russie. En Allemagne, on nous prétend qu'on sort du nucléaire malgré le fait que les sites qui sont responsables de la production de combustible ne s'arrêtent pas. Ils ont le droit de continuer à durée indéterminée. Ce n'est que les réacteurs qui sont arrêtés. Mais c'est très difficile de faire passer le message. Et il y a un peu de mal à la convergence des luttes, je trouve, à l'heure actuelle, entre le mouvement climat, par exemple, qui est très fort aussi en Allemagne, et le mouvement antinucléaire. Il y a beaucoup d'antinucléaires qui sont sur le mouvement climat, mais l'inverse est plus difficile. Et on a un petit peu le problème générationnel aussi, que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'ont pas vécu les dernières grosses luttes antinucléaires, parce qu'ils avaient 10 ans à l'époque. Et que c'est difficile de transmettre. C'est difficile d'expliquer pourquoi le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique. Il y a plein d'arguments, j'ai écrit des articles là-dessus, etc. Mais il faut d'abord que les gens ils acceptent de lire. C'est aussi un peu un développement des mouvements, je trouve, qui sont un peu trop événementiels et on va s'amuser. On consomme de l'action. Et du coup, les gens, en partie, ne travaillent pas toujours trop sur le fond. Et du coup, quand tu travailles pas sur le fond, quelqu'un qui te dit « Ah, mais on va prendre le nucléaire pour comme solution », c'est facile à croire si tu réfléchis pas, parce que les gens te disent « Oui, ça produit pas de CO2 et tout ça ». Si tu commences évidemment à chercher le sujet, à voir que bah si, dès les mines d'uranium il y a du CO2 et puis qu'il n'y a pas que ce problème-là, que la radioactivité c'est pas cool, même quand c'est prétendu faiblement radioactif, etc. Donc tu vois vite les problèmes quand tu t'occupes du sujet, mais la plupart des gens ne lisent pas le sujet et du coup c'est difficile de les convaincre. Et du coup le mouvement antinucléaire allemand actuellement il n'est pas très très fort. Et le lobby nucléaire l'a reconnu. Et du coup, par exemple, sur cet export de déchets nucléaires, ils sont amusés à recommencer, alors qu'on avait suffisamment fait pression pour qu'ils arrêtent. Et là, du coup, on a refait pression. Du coup, depuis un an, on a rebloqué 3 transports minimum, fait des vigies à chaque transport pour marquer le coup, parce qu'on ne peut pas toujours faire une action à chaque fois, quoi. Et là, il est question de peut-être qu'ils s'arrêtent à nouveau. On a peut-être obtenu qu'ils arrêtent à nouveau l'export de déchets nucléaires vers la Russie. Peut-être. On n'en est pas encore sûr.
Tu dis que si vous étiez plus, il y aurait plus de... Enfin, ils auraient plus de... Enfin, la police aurait plus de problèmes. Mais c'est quand même un poil compliqué d'aller se pendre à un arbre. Enfin, on n'est pas tous alpinistes.
Bien, en Allemagne, on a tout un réseau informel de personnes formées à l'escalade militante. Alors ça a commencé dans les années 80. Un de mes colocataires, qui a plus de la soixantaine, a appris l'escalade à l'époque. C'était des activistes anglais qui combattaient surtout les constructions d'autoroutes, qui avaient développé des techniques de grimpe activistes et qui ont fait des cours dans toute l'Europe. Et en Allemagne, ça a appris. Et au fil des années, il s'est développé un réseau, ça s'est un peu structuré, mais ça reste informel. Par exemple, on a une liste de diffusion sur laquelle les gens peuvent s'abonner. Et quand il y a des gens expérimentés qui ont envie de faire un cours, ils l'organisent et ils envoient l'invitation et les gens peuvent s'inscrire. Et ainsi, on forme des gens. On a un script commun avec toutes les techniques qui sont expliquées dedans. On structure nos cours à peu près de la même façon pour que tout le monde apprenne à peu près la même chose. Pour que quand on fait une action, on sache à peu près quelles sont les connaissances de l'autre. Il y a quelques conditions minimum, par exemple, que tout le monde soit capable de faire un sauvetage, parce que la sécurité, c'est ce qui est primordial. Et sur nos actions, on essaye d'avoir que des gens formés, c'est-à-dire que tu ne peux pas tomber à moitié d'un arbre, donc tu ne peux pas te former qu'à moitié. Donc juste apprendre à monter et à descendre, ça ne suffit pas, c'est dangereux. Il faut vraiment faire un cours. Nos cours, ils durent 5 jours, et pour les débutants, et normalement au bout de 5 jours on est capable de faire des actions. Il est conseillé de faire ses premières actions avec des personnes expérimentées parce qu'on continue sans arrêt d'apprendre, c'est vraiment les techniques de base. Et après souvent une fois par an ou deux on organise d'autres réunions, par exemple une réunion pour apprendre plusieurs techniques de sauvetage, comment je sauve par le haut quand quelqu'un est suspendu à un pont, parce que nos techniques sont plutôt sauvetage depuis le bas. Ou bien, moi, je fais des cours pour personnes handicapées. Par exemple, j'essaye d'apprendre aux personnes handicapées à grimper parce que j'estime que participer à la société, ça fait partie de ça aussi. C'est des personnes handicapées, souvent, on dit qu'elles sont capables de rien, on leur fait pas confiance qu'elles sont capables de plein de choses. Moi, comme j'ai une maladie évolutive, je me suis adaptée petit à petit au handicap. Du coup, j'ai une flexibilité particulière, j'ai une capacité d'adaptation, je crois, en escalade qui est assez importante. Et du coup, je suis capable aussi beaucoup d'adapter mes techniques au handicap de d'autres personnes, grâce à mon expérience, au fait que je grimpe depuis 30 ans et du fait que moi-même, je suis aussi handicapée. Dans le sens de la société horizontale handicapée. Hein. Dans le sens de la société verticale, je pense que je suis meilleure que la plupart des gens. Et donc, c'est pour ça que je donne des cours aux personnes handicapées, parce qu'il y a peu de gens qui ont la chance d'apprendre ça. Mais sinon, nos cours de 5 jours, ils sont plutôt destinés aux gens qui veulent faire des actions derrière, accrocher les banderoles, etc. Et c'est comme ça que ça marche en Allemagne. Et en France, j'ai déjà donné une fois ou deux des cours. Malheureusement, ça n'a pas suffisamment pris dans le sens où de là, ça aurait continué à y avoir plus de formations. Je ne crois pas, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, et si je me trompe, tant mieux. Il y a de réseaux, même informels, à l'échelle nationale, de gens qui forment d'autres gens à l'action escalade. Mais c'est à vous de le mettre en place. C'est tout à fait possible et on veut bien conseiller, on veut bien donner des cours à des personnes qui seraient ensuite multiplicateurs, formateurs eux-mêmes. Ça, c'est possible, parce que c'est comme ça que c'est la base pour répondre. Parce que c'est énormément d'énergie, sinon, de venir en chaque fois en France depuis l'Allemagne avec tout le matériel juste pour donner un cours. Autant que les gens, c'est une forme de empowerment, comme on dit, c'est un mot à la mode, de se donner à soi-même la force et la motivation de faire de l'action. Mais voilà, plus tu as de gens formés, plus c'est possible.
Il faut combien de jours et combien de personnes pour faire bloquer un train?
Combien de jours? Alors, en général, en Allemagne, par exemple, nous avons le TMHT, Technische Maßnahmen für Höhen und Tiefen. C'est une unité spéciale de la police, qui en a plusieurs, mais elle s'appelle comme ça. Mesures techniques pour les hauteurs et les profondeurs. C'est des policiers spécialement formés à l'escalade. Donc ceux-là, quand tu as affaire à eux, en général, ils sont quand même capables de terminer une action escalade. Donc une action de blocage de train, ça dure en gros la journée, entre 2h et, je sais pas, lundi dernier, ça a duré 5h. Pour la préparer, ça c'est un peu un secret de fabrication, mais en gros, tu as tout le travail d'information, savoir quand les trains circulent, parce que c'est pas des informations publiques. C'est certes pas classé secret des France comme en France, en Allemagne, mais tu crois que les autorités ne nous invitent pas à aller bloquer les trains, hein. Ce serait trop facile. Donc tu repères les horaires, tu repères les transports, tu fais de l'observation. Il y a certaines actions, il faut les préparer un peu techniquement. Il y en a d'autres, tu peux y aller plus à l'arrache. Par exemple, descendre un rappel d'un pont, c'est plus rapide que tendre une corde entre deux arbres. Et puis, tout dépend aussi de quel type de transport. Par exemple, quand c'est un transport très surveillé, genre un transport castor de déchets hautement radioactifs, quand ils allaient à l'époque à Gorleben, on vient de gagner sur Gorleben, pour le moment le site a été abandonné, mais ça a été abandonné il y a peu. Et il y a beaucoup de castors à Gorleben dans une halle à patates, comme on dit. C'est une grange, en gros, où ils stockent les castors qu'ils ont amenés jusqu'à présent. Ils sont toujours là. Et pour ces transports-là, par exemple, il y avait 10 000 policiers pour faire passer un train. Donc, si là tu veux faire une action, tu as besoin d'un peu plus de préparation, faire gaffe aux portables, est-ce qu'ils vont nous écouter? Et puis, faut trouver le toit, comment j'y vais sans être repéré par la police, ou alors est-ce qu'on y va? Voilà, bref. C'est un peu plus compliqué quand tu as 10 000 policiers autour de toi que quand on a 50. Mais faut savoir que des fois, en plus, toi, la presse, des fois, ils te demandent « Ah, est-ce qu'on peut accompagner une action ?» Moi, je leur dis « Je ne suis pas un opérateur touristique d'action escalade. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'une part, vous installez une méthode de cryptage parce qu'on ne peut pas en parler au téléphone. D'autre part, je peux vous dire « Vous pouvez peut-être nous accompagner, mais je ne vous garantis pas le succès. » Parce que les actions qui ont du succès, c'est plutôt la face immergée de l'iceberg. Ça demande beaucoup de travail, et pour une action réussie, il y aura peut-être deux ratés. C'est la vie. Faut s'y attendre que des fois on atterrit en garde à vue sans avoir rien fait, et c'est pas cool, mais tant pis. Ça arrive. Il faut bien savoir que c'est pas garanti. de résultats, mais le fait qu'on soit nombreux, il y a toujours quelque part, tu occupes les policiers, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, ils nous avaient observés, on était trois filles planquées dans la forêt, et puis quand on s'était rendu compte que l'hélicoptère était au-dessus de nous, que le téléphone portable ne marchait plus, on s'est dit, c'est grillé, on reste sous notre couverture à dormir dans la forêt, qu'est-ce que tu veux qu'on foute, quoi, on peut pas ressortir de cette forêt, il y a des flics partout. Puis tout d'un coup, ils ont leur petite oreillette, les flics, 40 lampes de poche qui s'allument en même temps, fixées sur nous, comme dans un film. c'est parce qu'ils nous avaient observés pour nous arrêter. On a occupé 40 flics. Hein. C'est toujours... Et moi, j'ai une copine on s'est connue plus tard. Elle me fait, c'était vous qui avez occupé tous les flics. Nous, on était sur les rails, on n'avait pas de flics, on était tranquilles. Tu vois. On n'a pas grimpé, mais le fait qu'on ait un baudrier et qu'on soit trois dans la forêt, ça a occupé 40 flics. Ma foi. Puis même, j'ai déjà aussi réussi à les occuper, les flics de l'escalade, une fois en garde à vue, parce qu'ils nous avaient mis dans une grande salle. Puis j'ai réussi à escalader le mur. Et du coup, ça les a occupés là aussi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que même quand une action ne réussit pas, tu peux quand même participer à la réussite parce que tu es un maillon de la chaîne de la résistance. Et chaque maillon compte. Et c'est ça qui est important. Et voilà comment ça marche. Là, c'était une espèce de halle à voiture. Et ils avaient viré les... Parce qu'ils louent des... Quand il y a des événements castors, comme ils font des arrestations en masse, ils louent des halles. C'était une grande halle qu'ils avaient louée et ils avaient foutu tout le bordel qu'il y avait normalement dans cette halle sur le côté, quoi. On avait le reste de la halle. Et en fait, c'était une halle avec des espèces de barres en fer. Et on était dans des cages. Ils nous avaient mis dans des cages. Mais bon, elles n'avaient pas de toit, les cages. Et ils avaient mis les grimpeuses de Robin Hood et de Greenpeace dans la même cage qu'ils avaient arrêtée après des actions. C'est pas une bonne idée de foutre les grimpeurs à cet endroit-là, quoi. Puis au début d'un moment, j'ai dit, ils vont peut-être bientôt nous relâcher, j'attends un peu. Puis au bout d'un moment, j'ai perdu la patience, j'en avais marre. En plus, il n'y avait rien à bouffer, ils avaient que des saucisses. Moi, je bouffe pas de saucisses. Et du coup, je suis sortie de ma cage et j'ai escaladé le mur. Voilà, sur les grandes barres en fer. Et du coup, ça a foutu le bordel, oui. Je me suis engagée avec Chiche dans la fin des années 90. Chiche, c'est « Tu crois que tu vas changer le monde ?» Chiche, jeune écolo alternatif et solidaire. À l'époque, c'était un groupe actif qui disait « La politique est dans ton slip ». Ça veut dire on avait le texte de référence évolutif avec les utopies réalistes et la révolution lente. Ça veut dire on veut la révolution, mais il faut prendre le temps de tout bien faire. Et par ce biais-là, je suis arrivée à l'écologie et l'antinucléaire. Moi, j'ai fait des études de français langue étrangère appliquées au commerce international. Non pas parce que j'aime le commerce, mais parce que je me sentais bien qu'il y avait un problème avec la croissance et que la décroissance, c'était plus cool, mais je voulais mieux comprendre le capitalisme pour pouvoir mieux le critiquer. Et donc, ma critique du nucléaire, à la base, c'était plutôt une critique, on va dire, économique, une forme d'énergie centralisée où les décisions sont prises au-dessus de la tête des gens. Ça peut pas être démocratique, ça peut pas être par la base, ça peut pas être bien. Et puis, je savais qu'il y avait des dangers, mais à l'époque, j'aurais pas pu expliquer grand chose sur les dangers du nucléaire, je m'y connaissais très peu. Et quand j'ai fait mon année Erasmus en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, c'est un petit peu ce qui fait aussi comment on mesure le succès d'un mouvement politique quelque part. J'étais à 500 km de Gorleben, et le sujet est venu à moi malgré la distance. Le sujet transport nucléaire, ça ne s'était pas produit en France avant. Et j'essayais de lire le journal sans parler très bien allemand. Et je pensais que c'était des activistes qui étaient pour la protection des animaux. Mais on me demandait pourquoi ils bloquaient des trains et pourquoi il y avait de la radioactivité. Parce que le castor, pour nous, c'est une petite bébête. Mais en allemand, le mot castor, ça veut rien dire du tout. Et c'est juste l'acronyme qui veut dire « Cask for the Storage and Transportation of Radioactive Material ». C'est le nom des containers. Il faut savoir qu'il y a des containers qui s'appellent aussi Pollux. Pollux. Et en gros, c'est une façon de banaliser le danger nucléaire de la part du lobby d'appeler ces containers comme ça. Et ça marche super bien pour les gens qui ont une langue, qui vient du latin. Mais pour la langue germanique, ça marche pas. Castor, ça veut rien dire. Mais un jour, j'ai dit à des copains, j'ai fait, mais Castor, c'est la bébête. Faut, hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Puis un jour, j'ai regardé dans le dictionnaire, quoi. Enfin bref, je me suis rendu compte que c'était des déchets nucléaires. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rien compris au film alors que je suis déjà anti-nucléaire? Et j'ai commencé donc à lire beaucoup de choses sur le sujet, à me rendre compte des problèmes qu'il y avait et que le nucléaire, c'était que la fin de la chaîne et que dès le début de la chaîne, c'était déjà de la merde avec l'uranium, qu'on ferait mieux de le laisser dans le sol, quoi. Et j'ai commencé à voir les risques d'accident, la pollution au quotidien, enfin tout, en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Et je trouve que le mouvement anti-nucléaire allemand, on peut dire qu'il a eu du succès dans le sens où il a réussi à m'atteindre malgré la distance et à me sensibiliser aux problèmes. Et pour moi, les transports nucléaires, c'est le talon d'Achille du nucléaire. J'ai pas le bouton on-off pour allumer ou éteindre une centrale nucléaire, ça va pas marcher comme ça. Par contre, j'ai la possibilité d'agir directement contre un transport nucléaire et ainsi de rendre la résistance visible et de faire chier le lobby nucléaire. Parce que plus on bloque leurs trains, plus on les emmerde. En Allemagne, avant Castor, c'est pas que le lobby nucléaire, c'est aussi la Deutsche Bahn, par exemple, l'équivalent de la SNCF qui a été attaquée parce que les gens, par exemple, ils tiraient la sonnette d'urgence dans les trains qui précèdent le Castor, ou bien il y avait une journée d'action nationale où on perturbait la circulation de tous les trains en leur disant, ben, vous arrêtez les transports nucléaires, soit vos trains sont perturbés. Faire mal là où ça peut faire mal, quoi. Il y a eu beaucoup de stratégies comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je suis venue sur le sujet du nucléaire, un peu grâce au mouvement anti-nucléaire allemand et au fait que j'ai compris que c'était pas des petites bébêtes, les castors.
Tu écoutes Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Tous les jeudis à 20h30. Ce soir, l'émission s'appelle...
Pour lutter, vivons perchés!
Et c'est Cécile qui te parle de son activisme contre le nucléaire et son monde.
Et puis du fait que je parle l'allemand et le français, je me suis rendu compte que c'était important de mieux mettre les différents mouvements, les différentes tendances antinucléaires en réseau. Je dis différentes tendances, parce qu'en Allemagne c'est un état fédéral, donc c'est très différent la structure du mouvement antinucléaire que française. Et justement pour faire comprendre ça, parce que la traduction et la mise en réseau, c'est pas que juste traduire des mots, c'est aussi traduire le contexte culturel, politico-culturel, les mouvements politiques d'un pays à l'autre sont très différents. Et c'est là-dessus que je travaille pour mieux... Parce que des fois, il y a des conflits, en fait, ils n'ont pas lieu d'être, c'est juste que c'est culturellement très différent. Ou inversement, hein, des fois, je me dis, non mais c'est bon, quoi. Puis moi, du coup, j'ai tendance à trouver des choses mieux en Allemagne qu'en France, et inversement, je pique dans les deux. Je trouve que c'est très enrichissant de faire les deux. Mais du coup, j'ai appris à traduire beaucoup de choses, et comme je me suis mis des fois à traduire des textes scientifiques, j'ai quand même appris comment fonctionnait une centrale, parce que je ne le savais pas avant. J'ai appris plein de choses sur la physique-chimie, bon, j'ai toujours encore du mal, hein, parce que franchement, à la base, je ne suis pas du tout une scientifique, mais j'estime que l'expertisme, ça va bien un peu, et que tout un chacun peut être actif contre le nucléaire et peut se former lui-même.
Ce matin de grand froid, en grimpant sur la montagne, une histoire m'est parvenue. Portée par les vents, les feuilles et les oiseaux, elle arrivait tout droit des hautes forêts d'Allemagne. C'est une histoire de combat et de ténacité. C'est l'histoire d'une écureuil. L'écureuil vivait paisible dans la canopée, au rythme des jours et des saisons, traquant les noisettes, collectant les noix. La forêt qu'elle habitait était une forêt magnifique, avec des essences d'arbres si variées qu'il aurait sûrement été impossible de les compter. Elle avait découvert ses feuillages lors d'un grand voyage et n'avait pu la quitter. Elle s'y sentait bien, tout simplement. Mais un clair matin de printemps, Un bruit terrible la réveilla brusquement. Elle sentit la terre trembler sous son chêne. Sautant de branche en branche, elle se précipita à l'orée de la forêt pour voir ce qui se passait. Était-ce une tornade, un orage, un tremblement de terre? Non. Le spectacle qu'elle découvrit lui fit bien plus peur encore. Un bulldozer était en train d'arracher les jeunes acacias qui bordaient la forêt. Le cœur d'écureuil faillit se décrocher de sa poitrine. Et pour la première fois de sa vie, écureuil eut le vertige. Après avoir accompli son massacre, le bulldozer s'éloigna, l'air de rien. Mais écureuil ne baissa pas sa garde. Elle décida de rester là pour observer ce qui se passait, et s'il fallait, pour riposter. Quelques jours passèrent alors, sans qu'une branche ne craquât. Écureuil, fidèle à sa parole, resta dans son arbre, elle qui était un mouvement perpétuel. Pour s'occuper, elle tapissa l'entrée de la forêt de messages répulsifs. Pas touche à notre forêt. Qui détruit la forêt, détruit la vie. Non au bulldozer. Et le lundi suivant, deux bulldozers débarquèrent. Écureuil était prête. Elle les attendait de pattes fermes. Entre deux branches, elle avait tendu un lance-pierre. Et dès que les bulldozers s'approchèrent, elle passa à l'attaque. Les noix, les cailloux et les fruits pourris volèrent sans discontinuer avec un acharnement sans faille. Mais les bulldozers avançaient toujours. Écureuil utilisa alors son atout majeur, sa rapidité. Elle sauta de son arbre et fonça sur le premier bulldozer pour lui coincer un caillou dans la roue. Aussitôt fait, elle rebondit vers le second et parvint à lui crever les pneus grâce à ses griffes acérées. Cette fois, ce fut la victoire. Les bulldozers s'arrêtèrent, muets. Écureuil savait pourtant qu'elle n'avait que peu de temps avant la prochaine attaque. Elle avait bien compris que ses ennemis étaient puissants et qu'elle ne pourrait défendre seule cette forêt. Elle alla alors mettre en alerte les autres habitantes, chouettes, chevreuils, lapins, mulots, mésanges. Tous furent prévenus, et une bonne partie d'entre elles débarquèrent, prêtes à en découdre. Des barricades furent dressées le long de la route, et Écureuil leur apprit à grimper aux arbres pour mieux se protéger. Des plateformes, des tours d'observation, des lance-pierres et tout un tas d'installations pour qu'elles puissent vivre confortablement là-haut furent construites. Et quand une quarantaine de bulldozers pointèrent à l'horizon, elles les attendirent, la tête haute. Les 10 premiers se prirent dans les pièges qu'ils avaient tendus, pneus crevés, embourbés, obstacles infranchissables. Les 10 suivants se prirent les attaques à distance. La boue recouvrait tout leur pare-brise, quand ils n'avaient pas cassé sous les pierres. Les 10 d'après se prirent les attaques rapprochées. Ils se faisaient tout simplement basculer sur le flanc, et leur était impossible de se relever. Enfin, les 10 derniers, qui n'emmenaient pas large, se faisaient grignoter les cordes qu'ils essayaient d'enrouler autour des arbres, voler leurs outils, empaqueter dans des branchages. Au bout de quelques minutes, ils partirent d'eux-mêmes, en promettant de ne pas recommencer. Écureuil et ses acolytes avaient réussi, et elles avaient sauvé la forêt. Cette aventure les avait soudées, plus que jamais. Alors, elles décidèrent de continuer à lutter ensemble, car il n'y avait pas que leur forêt qui demandait à être protégée. Depuis ce jour, elles continuèrent à grimper, partout, tout le temps. Que ce soit pour bloquer un train qui transporte des combustibles nucléaires ou pour empêcher le fonctionnement d'une mine de charbon. Écureuil et ses copains se perchent partout où ça peut gêner ceux qui détruisent les écosystèmes.
Tu as écouté Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Radio Fréquence Paris Pluriel.
Ce soir, c'était le collectif Radio Radieuse.
Radio Radieuse.
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 Qui proposait une chouette heure d'émission sous le doux nom de
Pour lutter, vivons perchés.
Tu peux retrouver les diverses brochures et textes que tu as entendus, ainsi que le podcast de l'émission sur le site radioradieuse.noblogs.org.
Radio Radieuse avec un S au pluriel.
Parce qu'on est tout un petit monde de créatrices, créatures dégénérées et audacieuses.
radioradieuse.noblogs.org.
Merci pour vos oreilles. Et on se retrouve le mois prochain pour la suite. Et spécial merci aux copains à la technique sur place dans le studio parisien. Bisous.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao ciao.
Ciao.
Parmi tous les animaux de la forêt, il est un petit mammifère de 25 cm qui a choisi pour cadre de vie le monde des hautes branches. Là où le chêne, l'érable et le noyer se rejoignent, à 15 mètres de haut, un écureuil roux déguste une noix. Ce rongeur, de la famille des suridés, occupe les espaces boisés de l'Europe jusqu'à la Sibérie et la Chine. Les naturalistes l'ont surnommé nain rouge en raison de la couleur de son corps.
Très drôle. J'adore. C'est trop rigolo.